au réseau Cogeco. Vous écoutez Bonsoir les sportifs. Voici Jérémy Rainville.
21h25 minutes, on poursuit notre conversation avec Martin McGuire. Martin, veux-tu donner le contexte, s'il te plaît, de comment ça s'est passé dans le point de presse lorsque le sujet de Philippe Dano s'est amené? Comment Marc Bergevin a réagi? Raconte-nous l'histoire un peu.
Ben, écoute, pour mettre ça en place, là, bien rapidement, une première question arrive de notre collègue Alexandre Gascon de Radio-Canada et il lui parle, est-ce qu'on peut... Puis la question est vraiment candide. Il attend presque une réponse toute faite d'avance. Là. Mm-hmm. Il dit, est-ce qu'on peut penser que la prochaine étape va être Philippe Dano? Est-ce que c'est aussi prioritaire de vous entendre avec Philippe Dano? Puis la réponse a été, ben là, la priorité, ça va être d'avoir des vacances. Ça a été la réponse. Puis là, ben écoute, on s'est mis à patiner un petit peu sur Dano. Et un petit peu plus tard, moi, je suis revenu à la charge et je lui ai dit, écoute, vous avez quand même pris plusieurs années à bâtir cette ligne de centre, à trouver un certain équilibre dans votre ligne de centre. L'arrivée de Suzuki a changé beaucoup de choses. Kotkaniemi qui a émergé, mais émergé, là, une courte période pour l'instant. Mm-hmm. Mais Philippe Dano s'est tapé le gros du boulot pendant les séries. On a souvent l'air à oublier que Dano et Shea Weber étaient deux des joueurs les plus utilisés là, sur la patinoire. Ça avait, il y a une raison pour ça. C'est parce que Dano est un élément encore très important. Alors ma question à Marc Bergevin, c'était, est-ce que Dano ne devient pas une priorité pour préserver cet équilibre qui vous a pris tant de temps à bâtir au centre? Voici la réponse.
Oui, écoute, c'est certain que Philippe, c'est un bon joueur pour nous. Puis c'est certain qu'on va voir ce qui va se passer dans la prochaine saison. Mais aussi, on a de la profondeur. On a repêché un Ryan Poehling, c'est un joueur de centre. Un Jake Evans, c'est un joueur de centre. Alors, écoute, à la fin de la journée, de ce côté-là, je pense qu'éventuellement, on va être en bonne position. Mais encore là, on est fiers, on est contents, mais on va voir ce que l'avenir va rapporter. Écoute, il y a des décisions à prendre à tous les niveaux.
Je me trompe-tu? J'ai-tu une mauvaise perception ou t'es moins pressé avec Dano ou si t'as des pourparlers préliminaires qui ont peut-être pas donné ce que tu voulais?
Martin, encore là, je veux pas embarquer les négociations de contrat. Je le ferai pas aujourd'hui. Je l'ai pas fait la semaine passée. Je le ferai pas dans une semaine. Alors, on va garder ça comme ça pour l'instant.
Aïe, 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 Martin. Et quand j'ai entendu en direct lorsque tu as posé cette question, et je me suis dit, est-ce moi ou... je pensais que tu allais dire, est-ce moi? Mais non, c'est pas très positif. Qu'est-ce qui se passe, là?
Ça a pas d'allure. Je connaissais la réponse. Je l'ai relancé, mais je connaissais la réponse. Je l'ai relancé parce que c'était un peu mon devoir de le faire dans les circonstances, là. Mon devoir journalistique d'aller plus loin. Mais je connaissais la réponse qui était pour donner. En même temps... Je suis obligé de penser que les choses ne vont peut-être pas très bien actuellement dans l'évaluation que Marc Bergevin fait du travail et de l'impact de Philippe Dano et de son impact futur, et peut-être l'évaluation de ce que le clan Dano fait du travail de Philippe, de sa contribution, puis de ce qu'il pourra amener dans les prochaines années. En tout cas, il semble y avoir une distanciation.
Parfait, mais ça, je comprends.
C'est à mode, ce mot-là. Là.
Ouais, exact.
On dirait que Marc Bergevin se dégage un peu de ce dossier-là.
OK, parfait. Ça, je comprends. Et c'est toujours... C'est le propre d'une négociation. Il y a quelqu'un qui veut quelque chose, l'autre veut autre chose.
Oui.
Puis il y a des moments où on est plus loin. Sauf que quand on pose la question et que sa réponse est « Ah, regarde, on va regarder la prochaine saison, on a repêché d'autres joueurs, on va avoir des décisions difficiles. »
Écoute, ça veut-tu dire qu'il entame la dernière année de son contrat?
C'est exact. C'est ce que moi, j'entends. Puis encore là, il faut faire attention, Martin, parce que dans les points de presse, Marc Bergevin est une journée sur deux en points de presse. On a entendu que le Canadien était intéressé à Taylor Hall, puis il n'a jamais signé Taylor Hall. Après, on a entendu qu'il y avait rupture de négociation. Le lendemain, on avait une signature de Brendan Gallagher. Donc,
On a entendu que les offres hostiles, ça donnait rien, puis le lendemain, il en déposait une.
Exact. Fait qu'il faut être prudent. Mais tout ça pour dire que, dans la situation, j'ai l'impression que ça aide pas à la négociation, ce que j'ai entendu, là, présentement, là.
Écoute, il y a beaucoup de sous-entendus là-dedans. Il y a beaucoup de non-dits. Tu sais, on est à la radio, là. C'est sûr qu'on voit pas le visage, mais il y a beaucoup de non-dits là-dedans. Il y a beaucoup de points de suspension. Est-ce que c'est volontaire de la part de Marc Bergevin de pas nommer beaucoup d'anneaux? Il y a une chose qui est sûre, puis il faut que je le raconte parce que vous ne l'avez pas entendu. Un peu plus tard dans le point de presse, en anglais, Il a devancé quasiment une relance de questions en disant « Je vais prendre le temps de vous raconter quelque chose. » Puis on sait que Marc Bergevin a travaillé longtemps à Chicago dans plusieurs rôles à l'intérieur de l'organisation des Hawks. Puis il nous a raconté que l'année où Philippe Dano a été repêché, c'est lui qui a poussé sur le dépisteur-chef et sur le recruteur, sur le directeur général pour qu'on repêche Dano. Il a raconté qu'il y avait un choix 17 qui appartenait à Chicago. Ensuite, il y avait un choix un peu plus tard dans la première ronde qui appartenait à Washington et tout. Et là, ben Marc Bergevin, lui, avait été voir Philippe Dano à Victoriaville avec les Tigres, puis poussait. Puis là, il n'y avait pas de réceptivité de la part de ses boss par rapport à Dano. À un moment donné, là, Bergevin a même dit à son gérant, si on attend, il va être parti, Dano. Alors finalement, ça s'est bien terminé pour les Blackhawks parce qu'ils n'ont pas pris Dano au 17 et Dano était là quand ils ont parlé à la fin de la première ronde. Mais Marc Bergevin a dit en anglais, alors, tu sais, prétendez pas que j'aime pas Philippe Dano. C'est moi qui ai poussé pour qu'on le repêche à Chicago. Alors, tu sais, encore là, il y a deux éléments. Il peut l'aimer, mais ça se peut que la négociation avec Philippe Dano arrive pas à se régler avant la prochaine saison. Il y a encore beaucoup de temps. Il a parlé de ses vacances, mais il a répété à 2-3 fois, là, il a dit, nous autres, on est comme les 7-Eleven, la chaîne de dépanneurs. Il aurait dû dire couche-tard ou bonne soirée. On va l'aider un peu là-dessus.
Je pense que couche-tard est propriétaire des 7-Eleven aux États-Unis.
Bon, ben, ça revient au même. Alors, voilà, tu sais, nous autres, il dit, comme les dépanneurs, on est ouvert 7/7, 24/24. Alors, tu sais, en même temps, quand tu colles tout ça, tu veux pas trop interpréter les propos, mais est-ce que là-dedans, il y a, appelez-nous, puis on va s'asseoir, puis on va essayer de régler quelque chose, ou si, ça presse pas, finalement, on peut se voir un petit peu plus tard.
Pour un gars qui dit qu'il négocie pas sur la place publique, honnêtement, il l'a fait, là. Il a lancé un message au clan Dano, là.
Ben, c'est du sous-entendu.
Exact. Mais il l'a fait.
C'est du sous-entendu. En cas, il y en a un qui s'il était à la table, il n'y aurait pas de problème pour Philippe Dano, ça passait comme du beurre en poêle. Je vais vous faire entendre son joueur de centre, Brendan Gallagher, qui a dit, moi là, je me mettrai pas le nez là-dedans parce qu'il dit, je viens de sortir du processus, puis j'ai trouvé ça stressant. Il dit, j'espère juste que ça va arriver. À quel point Philippe est bon, voici les paroles de Gallagher, du moins ce qu'il pense de son joueur de centre.
Speaking personally, how much Phil's been able to help me has been tremendous. You know, he's such a smart player, and we talk about it all the time, but I really think it is undervalued, just his his brain, how well he thinks the game. Very competitive, good player, wants to win at all costs, and for him to be put in all those different situations that we use him in, it's hard to ask anyone else to do that. So to put he's definitely helped me out a tremendous amount.
Alors, on espère tous que ça va bien finir parce que quand on entend Gallagher parler de joueurs intelligents, que Dano est prêt à tout pour que le Canadien gagne à n'importe quel prix et qu'il a dit à quel point, lui, ça l'a aidé de jouer avec Dano au cours des 2 dernières années, on ne peut que penser que, à quelque part, de l'autre côté de la table, la direction du Canadien de Montréal peut penser la même affaire.
Écoute, Martin, le temps file. Peut-être en terminant, à nous dire...
Oui, 2-3 nouvelles, vite.
Kéké, qu'est-ce qui se passe avec Kéké?
Ça pourrait se conclure avec le club de Pori, en Finlande. C'est le club avec lequel Kotkaniemi a joué à son année de repêchage, le club de sa ville. Il avait fait 29 points en 57 parties. Ben, il va jouer avec eux autres en attendant que les activités reprennent, peut-être le 1er janvier, bien sûr, dans la Ligue nationale. Charles Hudon est à quelques paperasses près de devenir officiellement un joueur du HC Lausanne en Suisse. Son agent a confirmé que c'est un problème de visa qui fait en sorte que là, il ne peut pas joindre l'équipe de façon régulière. Alors, ça devrait se régler. Peut-être qu'en début de semaine prochaine, là, on va voir attacher les problèmes légaux et les problèmes d'immigration et de visa en ce qui a trait à Charles Hudon. Et je termine avec ça. Le propriétaire des Golden Knights de Las Vegas, M. Foley, a peut-être dévoilé un plan. Pendant les séries, Danny avait eu des informations, puis pendant les séries du Canadien, on avait parlé de cette fameuse division canadienne pour la reprise des activités, pour pas faire voyager les clubs américains et les clubs canadiens chaque bord de la frontière avec les quarantaines et tout et tout. Alors, l'idée germait, puis l'idée se promenait un peu partout dans les milieux bien informés de la Ligue, mais personne disait « Oui, 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 c'est ça qu'on va faire ». Mais M. Foley, dans une entrevue à la radio, peut-être au Jérémy Rainville de Las Vegas, il s'est échappé. Puis on lui a dit, ouais, mais tu sais, t'as laissé partir Nate Schmidt, ton défenseur. Il est parti à Vancouver. Quand vous allez jouer contre les Canucks, vous allez l'avoir dans le visage, comme on dit. Et sa réponse, ben, non, ils disent, on l'aura pas dans le visage. Ils disent, on jouera pas les Canucks l'année prochaine. Il va y avoir une division complètement canadienne. Les clubs canadiens vont jouer ensemble. Puis nous autres, les Américains, on va jouer de notre bord. Bang! Le chat est sorti.
Et voilà. Monsieur Foley qui s'est laissé embarquer dans tout ça. Mais sincèrement, c'est une excellente idée, honnêtement.
Ouais, c'est une bonne idée. Puis écoute, moi, je pense que les télédiffuseurs vont bien aimer, particulièrement nos amis de Sportsnet vont bien aimer cette formule parce que j'ai l'impression que ça va le faire lever pas mal d'intérêt. Alors, quand on analyse les forces à Montréal puis qu'on se demande si le Canadien va être dans les séries, c'est plus aux équipes de sa division qu'il faut comparer le Canadien. C'est aux équipes du Canada. Parce que si tu dois te faire une place en série, il va falloir que tu sois bon contre les deux clubs d'Alberta, Winnipeg, Vancouver, Ottawa, Toronto, évidemment. Alors, ça va être à suivre, cette histoire-là.
Mais mon Dieu, ça va nous faire un sujet de tribune téléphonique, ça, d'après moi, mon cher ami Martin. Il y a des chances sais-tu? Qu'on parle de ça. Il y a des chances. Martin, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée.
Bonne fin de soirée, Jérémy.
Merci, Martin McGuire, qui nous faisait un résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Marc Bergevin et Brendan Gallagher, qui ont rencontré les médias. Martin faisait référence à M. Foley, propriétaire des Golden Knights. Une situation assez complexe, qu'est-ce qui s'est passé là. Imaginez-vous Brendan Gallagher qui dit « On a eu une rupture de négociation, c'est extrêmement stressant, puis le lendemain, ça s'est réglé. » Imaginez que ça perdure pendant plusieurs journées, puis ça ne se règle pas. Quel genre de situation l'athlète vit? Bien, c'est un peu ça qui s'est passé avec Marc-André Fleury, parce que lui a été au centre de rumeurs de transactions depuis des semaines. Et finalement, l'équipe a décidé de le garder avec un autre gardien de but qui s'appelle Robin Lehner à 5 ans, 5 millions, 25 millions de dollars. Puis lui doit composer avec tout ça, sachant que son club ne le veut pas nécessairement parce qu'on n'est juste peut-être pas capable de transiger présentement et sans que son club n'a pas la confiance nécessaire en lui pour être le premier gardien de but. Comment lui arrive à composer avec tout ça? Eh bien, le principal intéressé, Marc-André Fleury, est avec nous retour.